tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques chapitre 1 et verset 16. Ah oui, Jacques. Jacques 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point de doctrine majeur qui caractérise notre foi et qui dérange les gens, c'est que Dieu continue de donner sa parole et de révéler la vérité, ce qui fait que la révélation que Dieu donne aujourd'hui établit que le canon d'écriture n'est pas clos. Les chrétiens, du fait de leur amour sincère pour la Bible, et ça se comprend, déclarent qu'il ne peut pas y avoir d'autres écritures autorisées en dehors de la Bible. Mais il faudrait d'abord qu'ils commencent à étudier comment ont été collectés tous les livres qui font partie de la Bible. Ils seraient très étonnés. Mais on pourrait toujours dire, bon, c'est la volonté de Dieu que ce soit comme ça, et puis maintenant c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Mes frères et sœurs, l'Ancien Testament ne perd pas du tout de sa valeur à nos yeux quand on découvre le Nouveau Testament. Et pourtant, il y a beaucoup de choses très différentes, des choses fondamentales, différentes dans le message de l'Ancien et dans le message du Nouveau. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne perdent pas de leur valeur quand nous découvrons le livre d'Enoch, ou quand nous découvrons le livre de Thomas. Et il y en a encore d'autres qui sont des autres témoignages de Dieu donnés aux habitants de la terre et en particulier aux siens. Alors, ces livres anciens, comme celui d'Enoch ou celui de Thomas, contiennent des révélations qui ne diminuent pas et qui ne discréditent pas la révélation que nous avons dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien que l'Ancien Testament soit très différent du Nouveau, et bien que le Nouveau semble parfois contradictoire en lui-même. La Bible est la parole de Dieu et elle sera toujours nommée en premier dans notre canon des Écritures. Pas de problème. Nous aimons Jésus-Christ, le Sauveur du monde, Jésus, Dieu dans la chair, qui est venu pour nous sauver. Et nous l'aimons et nous cherchons à vivre au mieux ce qu'il nous a enseigné. Et c'est parce que nous l'aimons et parce que nous aimons les gens que nous invitons ceux qui nous rencontrent à découvrir tout ce que le Seigneur nous a révélé. Hein, quand on aime quelque chose, on en parle. Par exemple, rappelez-vous quand on était dans je ne sais comment ça s'appelait, cette société de produits machin là. Alors on disait toujours, quand vous aimez une lessive, quand une dame aime une lessive, elle en parle à sa voisine. Mais c'est logique, quand on aime quelque chose, quand on découvre quelque chose de bien, on en parle par amour, parce qu'on aime. On aime le produit, par exemple, puis on aime aussi les gens. Alors, nous voulons partager et ne pas garder pour nous ce que nous recevons du Seigneur, et nous invitons chaque personne, que ce soit des croyants ou des incroyants, à se joindre à nous pour s'abreuver à la source de la vie, qui jaillit et qui jaillira jusque dans la vie éternelle et qui ne se tarira jamais. Alors, tout au long de l'histoire de l'Église, Dieu a rappelé aux terriens qu'il est vivant, qu'il les aime et qu'il parle encore aujourd'hui et qu'il en révèle de plus en plus. Par exemple, si vous prenez l'Ancien Testament, ben, à part le livre de Job qui n'a pas été écrit par un juif et qui est contesté dans les milieux hébraïques et aussi par certains chrétiens qui disent mais ce livre n'a rien à faire avec la Bible, comme le livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, qui était très contesté par Luther, il voulait le balancer de la Bible, il disait ça n'est pas, ce truc-là n'est pas biblique. Eh bien, dans les milieux chrétiens, qu'est-ce que je disais là, je me suis égaré, nous savons que nous pouvons être en marche en lisant les Saintes Écritures, et nous sommes heureux, nous sommes en marche, nous sommes dans la gratitude, dans la reconnaissance envers Dieu, de ce qu'il ne se tait pas. Il continue à parler dans l'Ancien Testament, à part dans le livre de Job, comme je vous disais, ben, vous n'avez rien du tout au sujet du diable. Le diable, vous pouvez le chercher, vous ne trouvez pas. C'est une révélation qui a été donnée à partir du Nouveau Testament. Voilà, il fallait l'accepter. Mais ouais, mais il ne faut pas que ça contredise les Écritures. Ben non, ben voilà. Il y a eu des interprétations des anciennes Écritures pour justifier l'existence du diable. Mais... Et puis vous aviez à l'époque de Jésus même des religieux au temple qui ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Je me demande à quoi ça servait d'être un prêtre si on ne croit pas dans la résurrection des morts. C'est bizarre, mais vous avez de tout. Parce que ces paroles sont écrites de façon à ce qu'on puisse justifier nos croyances d'après les intérêts qu'on a. Alors, Dieu ne cesse pas de s'adresser à nous. Et il n'est pas seul à parler, nous lui parlons aussi, et ça s'appelle la prière, nous parlons à Dieu. Quand Dieu parle avec nous, il a différentes méthodes, différents moyens, différents canaux. Parfois ces messages arrivent rapidement, subitement, de façon spectaculaire, et c'est un peu comme quand vous êtes dans un endroit ténébreux, puis soudain quelqu'un allume la lumière, tout d'un coup, paf, on voit tout, hein, c'est clair, c'est net, c'est impeccable. Tout d'un coup, l'obscurité disparaît, et on voit tout clairement dans la pièce. Mais ça, mes frères et sœurs, je pense que c'est cette forme de réception des messages de Dieu, elle est plus rare qu'habituelle. Plus rare qu'habituelle, ça arrive, mais c'est rare. La deuxième façon que Dieu a de nous révéler sa parole, ce qu'il a à nous dire, c'est comme une lumière qui arrive graduellement, un peu comme le lever du soleil. Hein, il fait nuit, puis petit à petit, on voit à l'horizon une lumière, et puis ça éclaire de plus en plus, on voit des ombres chinoises, hein, les arbres, les machins, et puis tout à coup, voilà que la lumière s'élève encore, 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 et puis finalement, on voit bien clair. Mais ça ne se fait pas d'un coup, sauf au Burkina Faso, où, non, c'est pas le soleil qui se lève brusquement, mais il tombe brusquement. Tout d'un coup, il fait jour, vous clignez des yeux, il fait nuit. C'est à peu près ça. Hein. Moi, j'étais surpris la première fois de voir la nuit tomber aussi rapidement. Et, frère, là, je pense que cette forme de révélation est plus habituelle que rare, c'est-à-dire ça vient progressivement. Parfois, la révélation arrive comme dans un jour brumeux. Je pensais à ça l'autre jour, parce qu'on est parti sur Verneuil pour aller faire des courses avec la Michou, comme à peu près 3-4 fois par semaine, on fait des courses pour vous. Et puis, c'était plein de brouillard. Et il y a juste assez de lumière pour qu'on puisse faire quelques mètres avec la voiture, un peu par la fois quand même, parce que s'il y a une biche, hein, j'ai appris que votre fille a eu un problème avec une biche. Ça, c'est le coin, c'est terrible. Mais on est obligé de rouler quand même. Et alors, on fait des pas... il y a juste assez de lumière pour qu'on sache qu'il ne fait pas sombre, que ce n'est pas la nuit, mais bon, la luminosité n'est pas éclatante. Puis si vous essayez de mettre une lumière artificielle, ben, c'est éblouissant, c'est-à-dire que vous voyez encore plus le brouillard, vous avez remarqué? Alors on peut voir juste assez pour avancer, de quelques pas dans le brouillard. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça que Dieu me parle le plus souvent. Il n'y a pas assez de lumière pour pouvoir courir, mais il y a assez de lumière pour faire quelques pas, et à mesure qu'on marche, eh bien, on voit devant. En fait, quand on regarde l'histoire de Dieu avec les siens, on voit, parce qu'on a le recul maintenant, que Dieu a très souvent utilisé cette façon de ce système-là. Avec Luther, par exemple, il voyait Luther, mais il voyait pas aussi loin que Wesley. Il ne voyait pas, et Wesley ne voyait pas aussi loin que Branham, et Branham ne voyait pas aussi loin que nous, etc., etc. Wesley, il voyait plus loin que les catholiques, mais ça, c'était le brouillard ambiant. Mais il ne voyait pas aussi loin que Wesley ou Branham. Mais est-ce que Wesley était moins un frère en Jésus-Christ que Luther? Non. Dans la réalité, non. Mais ils sont quand même chicanés. C'est dommage. Ils ne pouvaient voir que ce que Dieu leur montrait. Ils ne pouvaient pas voir autre chose que ce que Dieu leur montrait dans le brouillard ambiant de leur époque. Par exemple, on ne peut pas condamner Luther parce qu'il voulait retirer le cantique des cantiques de la Bible. Et puis d'autres bouquins aussi, l'Apocalypse, il n'aimait pas. T'aviez ça? On échappait belle, hein? On ne peut pas condamner Luther et le traité d'hérétique parce qu'il avait des idées très arrêtées qui polluaient son époque au sujet des Juifs. Il était antisémite, Luther, mais quelque chose de bien, hein? C'est moche. Mais bon, on peut rejeter tout ce que le Seigneur lui a montré parce qu'il avait des trucs qui étaient bizarres. On ne peut pas condamner et rejeter toute son œuvre à cause de quelques-unes de ses prises de position anti-bibliques. Comme de même, on ne peut pas condamner Frère Branham qui marchait dans le brouillard américain des années de Martin Luther King. Il détestait Martin Luther King, il ne peut pas le blairer. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Martin Luther King, le pauvre frère Branham? Mais on ne peut pas rejeter tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit parce qu'il avait une façon de s'exprimer. Quand il parlait des Noirs, il disait les Nègres. Il était dans le brouillard américain de cette époque-là. Puis il marchait pas à pas, puis voilà. On ne peut pas le rejeter parce qu'il se trompait sur le nombre de côtes qu'avaient les hommes et les femmes. Et parce qu'il ressemblait dans ses réunions, dans sa façon d'agir, il ressemblait à un mentaliste. Ah oui, il ressemblait à un mentaliste, le frère Branham. D'ailleurs, le mot n'était pas à la mode, mais on disait que c'était une forme de spiritisme accompagnée de psychologie et de choses comme ça pour qu'il puisse arriver à deviner le numéro de la rue, de la dame, etc., etc., qui venait vers lui. Voilà, c'est des trucs, ça, vous allez voir un mentaliste à Paris dans une salle de spectacle qui vous fait la même chose, hein. Les luthériens suisses rejetaient Billy Graham, pourquoi? Parce que quand il est venu la première fois à Zurich, ils ont été choqués par son allure. Il n'avait pas l'allure d'un pasteur, parce que les pasteurs à l'époque, maintenant moins, mais les pasteurs protestants à l'époque, ils se mettaient avec une grande robe noire et puis deux petits trucs blancs là devant comme ça. Puis quand ils ont vu Billy Graham arriver avec son costume de VRP, ils ont dit non mais ça c'est pas la dignité, ça c'est pas possible, c'est pas un envoyé de Dieu. Mais est-ce qu'on peut condamner les luthériens qui condamnaient Billy Graham? Non, ça peut nous faire sourire avec le recul, mais on peut pas les condamner et dire qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Parce que chacun marchait à son époque, dans le brouillard ambiant, avec juste assez de lumière pour aller un tout petit peu plus loin. C'est tout, c'est tout. Si Billy Graham ou William Branham ou Wesley s'étaient découragés à cause des condamnations, eh bien, ils se seraient conformés aux idées arrêtées de ceux qui ne voulaient pas avancer avec la lumière qu'eux-mêmes avaient reçue. C'est tout. À cause du brouillard. Mais ils avançaient pas à pas dans le brouillard et à chaque pas, la lumière leur découvrait un peu plus de chemin et ça les fortifiait dans leur mission. Nos frères et sœurs mormons se sont trompés aussi. Souvent, ils ont fait des grosses bêtises. Voilà, c'est terrible. Ils ont fait des... comme la polygamie, par exemple. Pendant quelques temps, ils ont marché dans ce brouillard-là et puis un jour, ils se sont rendus compte. C'était au 19e siècle, dans ce brouillard bizarre. Et puis, ils croyaient vraiment que Jésus allait revenir bientôt, puis qu'il fallait que le plus grand nombre d'âmes soient sauvées, donc il fallait que les hommes aient plusieurs femmes pour faire plusieurs enfants, afin que plusieurs esprits puissent venir s'incarner, afin que le plus grand nombre puisse être sauvé, parce que les enfants sont tous sauvés. Mais c'était rigolo comme idée, hein, c'est affreux, c'est horrible. Ils sont trompés, ils sont gourés, puis ils s'en sont rendus compte. Est-ce qu'on les condamne? Et puis, alors là, maintenant, vous allez voir sur les sites internet, les chrétiens évangéliques continuent toujours à les condamner à cause de ça. Est-ce que ça ne serait pas une erreur de les condamner parce qu'ils se sont trompés? Parce que s'il faut condamner tous ceux qui se sont trompés, Jésus-Christ est notre lumière, il est la seule vraie lumière du monde, une lumière sans fin et parfaite. Elle ne peut pas être obscurcie, cette lumière. Elle vient dans nos ténèbres, mais ça ne l'obscurcit pas. Elle vient dans nos brouillards, mais ça ne l'obscurcit pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais tout dépend de notre amour pour la lumière. Allons-nous avoir la foi pour marcher dans le brouillard, pas à pas, sachant que la chaleur de la lumière va finalement dissiper le brouillard. Un jour ou l'autre, notre brouillard ne sera plus notre brouillard. Il y aura un autre, parce que c'est comme ça. Si nous suivons ces enseignements, alors Jésus-Christ est notre lumière. Un de ses noms, c'est la lumière. Il est le Père des Lumières, nous dit le texte qu'on a lu là. Et quand nous nous appliquons à suivre ses enseignements, je ne parle pas de ses doctrines, je parle de ses enseignements au sujet de notre comportement, c'est-à-dire le renoncement à nous-mêmes, à notre orgueil, eh bien, il nous a, tout ça nous l'a enseigné, eh bien, cela éclaire tous les aspects de notre vie. Tant des Juifs, temps de l'apôtre, comme par exemple c'est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors on s'arrête là, mais la suite du verset c'est ne vous laissez pas tromper au sujet des doctrines fausses, au sujet du manger et du boire. Mais il y avait dans l'église des gens qui disaient, faut pas manger ça, faut pas boire ça, c'est pas bien, c'est pas selon la loi et tout. Puis ils étaient obligés de dire, non, attendez, non, ne vous laissez pas avoir avec ça, c'est faux, c'est pas juste. Et pourtant c'était juste par rapport à l'Ancien Testament. Mais ils étaient en train de faire des pas, ils étaient en train d'apprendre. Et puis ils leur disaient, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, mais hier, il disait autrement. Oui, mais maintenant, mais ça avait été dur à expliquer tout ça. Hein? Ça avait été dur. Puis il y en a qui ne voulaient pas comprendre. Puis voilà. Mais si nous suivons ces enseignements, nous ne condamnons pas, nous ne jugeons pas, nous ne condamnons pas. Cela éclaire tous les aspects de notre vie. Mais si nous ne renonçons pas à notre orgueil, alors nous sommes finalement laissés seuls. Alors moi, je préfère de loin suivre sa lumière et la partager. Même si, il arrive un moment où les baptistes sortent des luthériens, ou les pentecôtistes sortent des baptistes, ou les branhamistes sortent des... Vous voyez, sortez du milieu d'eux, c'est quand même aussi écrit. Car nous sommes témoins de sa lumière et on doit en témoigner. Nous avons été remplis, baptisés dans le Saint-Esprit pour être des témoins de sa lumière auprès de nos familles, premièrement, et ensuite auprès de nos frères et sœurs, c'est quand même important, et auprès des gens du dehors. Nous ne gardons pas pour nous-mêmes ce que Dieu nous a donné si nous sommes sûrs de ce que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas, c'est coupable. Or, les catholiques, dans le brouillard de l'époque de Luther, ils se croyaient dans la lumière et ils ont voulu défendre leur foi. Mais ce qui montre majestueusement qu'ils étaient dans l'erreur, c'est leur comportement. C'est ce qu'ils ont fait à ces pauvres protestants. C'est ça qui montre qu'ils étaient dans l'erreur. Ils les ont brûlés, ils les ont envoyés aux galères, ils les ont massacrés. C'est l'horreur. Et puis, à leur tour, les protestants ont persécuté les Wesleyens. Ils ont chassé Wesley de l'église, il est obligé de prêcher dans la rue, d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur notre vitrail, il est dans la rue, il n'a plus d'église, il n'a plus rien. Puis ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont fait exactement, c'était les persécutés persécuteurs. Ils ont brûlé Michel Servet à Genève, tout ça parce qu'ils ne voulaient pas croire dans la Trinité. Et ils se croyaient dans la lumière, sûr, ils étaient sincères. Et puis à leur tour, les méthodistes ont mal agi avec les baptistes. Et puis les baptistes ont mal agi avec les pentecôtistes. Je me rappelle le frère Launay, quand il racontait son témoignage, il nous disait qu'il se prenait des boulons, il lui jetait des boulons, vous vous rendez compte? Parce que, ouais, ça le possédait avec ton parler en langue et tout. C'est terrible. Et puis les pentecôtistes ont mal agi avec Branham et continuent. Là, je suis allé sur le Facebook de Henry Linderman, un pasteur avec qui j'ai travaillé. Mais attendez, maintenant il doit avoir 70 ans, mais il n'arrête pas. Il n'y a pas une semaine où il ne pond pas un article pour traiter Branham et tous les non-trinitaires de possédés, démoniaques, bons pour aller en enfer, etc. C'est incroyable. Ça devient une obsession. S'il pouvait brûler, les brûlerait. Vous savez qu'il y a une doctrine comme ça qui dit que si vous n'êtes pas vraiment correct avec la parole de Dieu, eh bien, c'est celui qui traite mal le temple du Saint-Esprit, et vous êtes le temple du Saint-Esprit, Eh bien, si on vous traitait mal le temple du Saint-Esprit, eh bien, vous pourriez être sauvé, mais comme au travers du feu. Ben voilà, c'est pourquoi ils brûlaient les gens. Il faut brûler les gens. Comme ça, ils seront sauvés si on les brûle. On les force à se repentir juste avant, puis on les brûle. Comme ça, ils seront sauvés. Vous voyez, avec la parole de Dieu, comment ils ont justifié leurs horreurs, avec la Bible. Mais la Bible me prouve que... Ça ne suffit pas, là. Il faut aussi écouter l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible, par elle-même, c'est monstrueux. L'exemple que je vous donne est ridicule, presque. Mais c'est quand même ce qui s'est passé. Ils seront sauvés comme au travers du feu. Il faut brûler ces gens. Ils sont sauvés. Et puis, l'histoire se répète tout le temps. Mais qui y prend garde et qui tire des leçons? Qui est capable de dire, bon, tu ne crois pas la même chose que moi, je te respecte, tu es mon frère, tu agis, tu continues à agir avec moi, on est quand même des collègues, ça va. Qui est capable? Qui montre ça? Qui le fait? Jésus est la lumière, il est la parole, il est le sauveur. Et le rôle de Luther, c'était d'éclairer les autres, de leur parler de la parole, révélée à son temps dans son brouillard, de les sauver des ténèbres dans lesquelles ils se trouvaient à l'époque. Et rien ne change. Celui qui reçoit, la Bible dit qu'il doit donner. Celui qui reçoit, il doit donner. C'est un des signes de l'action du Saint-Esprit dans celui qui reçoit, ce qu'il donne. Mes frères et sœurs, Luther, Wesley, Branham, tous ces hommes de Dieu, savaient qu'ils avaient un pouvoir qui leur venait de Dieu, c'était le pouvoir de l'esprit de révélation. Voilà pourquoi je vous dis que le canon tel qu'il a été établi là, moi je dis, il n'est pas fermé. Il ne faut pas que ça contredise ce qui est là. Mais encore faut-il être éclairé par le Saint-Esprit afin de ne pas pondre des doctrines dans le genre de « puisqu'il souille le temple du Saint-Esprit, eh bien, il faut le brûler, parce que la Bible le dit. » Nous avons beaucoup reçu, alors nous donnons ce que nous avons reçu parce que nous aimons celui qui nous a donné, c'est-à-dire Jésus, au risque de se prendre des coups. Dieu nous a révélé la vérité concernant d'où nous venons et pourquoi nous sommes ici et où nous allons. Ça, c'est la plus grande chose. Et une grande partie de notre perplexité dans notre vie vient du fait que nous ne comprenons pas très bien qui nous sommes. Est-ce que nous avons à faire entre le moment où nous sommes venus et le moment où nous allons partir? Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du vilain petit canard d'Anderson? Je crois que même les enfants l'ont entendu, cette histoire. C'est un petit canard. Et puis quand, voilà, en grandissant, sa maman s'aperçoit, la canne s'aperçoit que c'est, bon, il est bizarre, il est grand, il est moche, il n'est pas bizarre. Et les autres petits canards lui font la vie dure, et c'est pénible, c'est difficile, et le petit canard commence à devenir dépressif, et finalement il pense, le mieux c'est que je foute le camp, quoi. Le mieux c'est que je me tire. Et puis il s'en va, puis un jour il voit un vol d'oiseaux absolument majestueux, il les regarde, et puis comme il est auprès d'un plan d'eau, il voit son reflet dans l'eau. Et puis il se dit, mais hey, je suis comme eux. En fait, je ne suis pas un canard, je suis comme eux, je suis un cygne. Il était un cygne, mais je ne sais pas comment, par quel miracle bizarre, cet œuf de cygne était arrivé dans le clapier, je ne sais pas comment on dit, le nid des canards. Enfin bon. C'est en voyant le modèle, c'est-à-dire en voyant les signes, et en regardant dans son reflet dans l'eau, qu'il a découvert qui il est vraiment. Et mes frères et sœurs, pensez d'où vous venez. Vous êtes des fils et vous êtes des filles de Dieu, de l'être le plus glorieux de l'univers, et il vous aime infiniment, ce Dieu. Et il veut le mieux pour vous. Quand je dis qu'il veut le mieux pour vous, il veut aussi le mieux pour moi. Mais ce n'est peut-être pas le même mieux, mais il veut le mieux. Ça, ça change tout. Cette connaissance, elle change votre présent, elle peut changer votre avenir, elle peut changer le monde. Parce que comme vous allez recevoir quelque chose de Dieu, vous allez le donner, ce qui va provoquer des conséquences. Si nous pouvions comprendre qui nous sommes, nous saurions quoi faire et comment le faire. Si nous pouvions savoir réellement qui nous sommes et ce qui nous attend, mais nous ne resterions pas les deux bras croisés en attendant je ne sais pas quoi. Notre cœur déborderait de joie, notre cœur déborderait de gratitude si nous savions vraiment qui nous sommes et pourquoi on est là. La lumière et l'amour de Dieu illumineraient même les âmes les plus sombres qui nous entourent. Bon, il y aura toujours des voix pour vous dire que vous êtes insensé de croire que vous êtes un fils ou une fille de Dieu, qu'en réalité vous êtes simplement un canard mais vilain. Il y en a toujours qui vont insister pour vous dire que vous êtes un vilain petit canard et puis qu'il ne faut pas que vous expériez quoi que ce soit d'autre. Et ça ne va pas s'arranger en grandissant. Vous allez toujours être comme ça, un vilain petit canard. Mais vous, vous savez que c'est faux. Vous le savez parce que vous avez vu le modèle et vous avez regardé dans l'eau le reflet, votre reflet, et vous avez vu qui vous êtes. Vous le savez. Alors je vous le dis instamment, mes frères et sœurs, regardez dans l'eau. Regardez dans l'eau. Voyez votre reflet. Je prie Dieu au nom de Jésus et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus afin que lorsque vous vous regarderez, lorsque vous verrez votre reflet, vous puissiez voir au-delà de vos imperfections. Et que vous fassiez aussi un trait d'union entre votre reflet et le reflet des autres signes. Et puis que vous puissiez aller au-delà de votre manque de confiance en vous-même et que vous puissiez reconnaître qui vous êtes vraiment, des glorieux enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, ce qu'il y a de terrible, c'est que le brouillard, c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau qui n'est pas dans son état normal. Vous marchez dans le brouillard ambiant de ce 21e siècle, j'y marche, nous y marchons, mais il y a juste assez de lumière ici pour que vous alliez à l'eau de la parole pour voir qui vous êtes. Il y a juste assez de lumière pour que vous voyez que vous êtes important, pour que vous voyez que Dieu croit en vous, qu'il vous aime, qu'il croit aussi en vos frères et sœurs qui ne sont pas tout à fait dans la même position que vous, qui ne pensent pas comme vous. L'eau de la parole veut vous révéler qui vous êtes, elle veut vous désaltérer, et puis elle veut ensuite jaillir de vous sur les autres. Alors, je prie et je vous bénis afin que cela puisse arriver dans la vie de chacun de nous ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur mon Dieu de nous parler encore, de nous tendre la main, afin que nous puissions non seulement te prier, t'écouter, mais que nous puissions aussi partager. Merci Seigneur de nous aider, afin que nous puissions aller encore quelques pas dans ce brouillard, au nom de Jésus mon Dieu. Amen.